Tout de suite, c'est la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour.
Bonjour.
Et on commence aujourd'hui avec l'Iran. L'Iran qui annonçait hier avoir relancé sa production d'uranium enrichi à 4,5%. Et c'est une violation manifeste des accords internationaux de 2015 sur son programme nucléaire.
Oui, tellement manifeste cette violation qu'elle est assez unanimement analysée dans la presse étrangère ce matin comme un signal envoyé à la communauté internationale, à l'Europe en particulier. Téhéran met en garde l'Europe, titre l'OTAN en Suisse. C'est même un appel à l'aide adressée par les Iraniens sous la forme d'une provocation, une violation donc flagrante des règles établies. 4,5% d'enrichissement de l'uranium, précise l'article du Temps, c'est certes un peu au-dessus de la limite des 3,67% édictée par l'accord de Vienne en 2015, mais c'est très loin des 90% qui seraient nécessaires pour produire du combustible permettant de fabriquer une bombe atomique iranienne. On voit donc bien que Téhéran cherche avant tout à franchir la ligne rouge pour activer l'alarme et obliger ses derniers partenaires possible, les Européens, à s'engager à ses côtés face à l'intransigeance des États-Unis. Car l'Iran refuse de jouer seul les règles du jeu quand celles-ci ont été piétinées il y a un an par le désengagement américain. Cette métaphore du jeu, c'est le Jérusalem Post qui l'utilise. Pour le quotidien israélien, et quoi qu'en pense Donald Trump ou Benjamin Netanyahou, Téhéran n'a nullement comme but de développer un programme nucléaire à des fins militaires. Ce que recherche le pouvoir iranien, c'est plutôt de développer son arsenal conventionnel, missiles balistiques et drones par exemple, pour étendre son emprise sur son étranger proche. Mais la menace nucléaire n'est pas une fin en soi. Soit juste un moyen, une arme de dissuasion et de négociation. Idem, explique encore Seth Franzman dans le Jérusalem Post, avec l'influence prêtée ces dernières semaines aux éléments les plus radicaux au sein du pouvoir iranien, le président modéré Hassan Rouhani s'en servirait, exagérerait sciemment ce poids des radicaux pour dire aux Européens, attention, si vous ne nous aidez pas maintenant, les plus conservateurs arriveront au pouvoir en Iran et plus personne ne pourra éviter une guerre.
Une guerre dont ne veut pas l'Iran, et c'est ce que rappelle un ex-diplomate iranien dans une tribune publiée par The Guardian.
Nous n'avons pas demandé à être propulsés dans cette crise, mais nous n'accepterons pas pour autant les provocations de Donald Trump sans réagir. Voilà ce que dit Hossein Moussavian dans ce texte publié dimanche. Hossein Moussavian, il faisait partie en 2015 des négociateurs de l'accord de Vienne sur le programme nucléaire iranien et aujourd'hui il déplore donc dans The Guardian le fait qu'en se retirant de l'accord, en réinstaurant des sanctions très dures et très ciblées contre des personnages clés du pouvoir iranien, comme l'ayatollah Khamenei ou l'ancien ministre des Affaires étrangères Javad Zarif, Washington a volontairement fermé la porte à tout dialogue diplomatique, ne laissant ouverte que celle de l'escalade verbale et militaire. Les Américains se sont-ils rendus compte de l'impasse explosive dans laquelle ils se sont enfermés? En tout cas, une nouvelle séquence semble s'ouvrir, estime le Financial Times, avec ce coup de téléphone consacré à l'Iran qui a été passé hier soir entre Donald Trump et Emmanuel Macron, lequel dans la foulée a annoncé l'envoi de son conseiller diplomatique Emmanuel Bonne à Téhéran pour tenter de renouer les fils du dialogue, amorcer, nous dit-on, une désescalade. L'Iran, en violant manifestement l'accord de 2015, on l'a dit, voulait pousser l'Europe à s'engager, elle qui traînait les pieds depuis un an. La réaction européenne s'organise donc apparemment depuis Paris, mais le Washington Post estime enfin que la France ne pourra au mieux jouer qu'un rôle d'intermédiaire entre Téhéran et la Maison-Blanche. Pour que la situation se débloque vraiment, dit l'édito du Washington Post, il n'y a qu'une solution, que Donald Trump tourne enfin le dos au faucon, c'est conseiller qui le monte incessamment contre l'Iran et il doit le faire très vite avant qu'il ne soit trop tard.
Au Brésil maintenant, Camille Magnard, les choses se compliquent sérieusement pour le ministre de la Justice, Sergio Moro.
Oui, ce très proche du président Jair Bolsonaro est sur la sellette depuis un mois, depuis que le site d'investigation The Intercept a révélé des échanges de messagerie électronique qui prouve que Sergio Moro, ancien juge chargé de l'enquête fleuve dit Lava Jato sur la corruption au sommet de la politique brésilienne, que Sergio Moro donc a utilisé cette procédure à des fins politiques au profit de Bolsonaro pour faire mettre en prison notamment son principal rival, l'ancien président de gauche Lula. Or ce matin, les choses semblent se précipiter. Moro vient d'annoncer qu'il met ses fonctions de ministre entre parenthèses pendant 5 jours, dit-il, de congé sans solde qu'il dit prendre pour régler des affaires privées. Cette étonnante mise en retrait forcément alimente toutes les rumeurs dans la presse brésilienne sur une possible démission à venir. La Folha de São Paulo fait forcément le lien entre cette décision inattendue et la défiance qui n'en finit pas de monter contre l'ancien juge. Les critiques avaient repris hier avec la révélation toujours par The Intercept de nouvelles informations montrant que Sergio Moro avait aussi tenté en 2017 de fragiliser le régime vénézuélien de Nicolas Maduro, là encore en faisant fuiter à dessein des soupçons de corruption. En lisant El País Brésil, cette fois, on comprend que Jair Bolsonaro lui-même ne pouvait plus ignorer la situation intenable dans laquelle était son ministre. Avant le week-end, il avait fièrement déclaré à la presse qu'il allait emmener Sergio Moro avec lui au stade Maracana de Rio, où se déroulait la finale de la Copa América de football. Il voulait tester la popularité de son ministre à l'applaudimètre. Le résultat a été plutôt clair. Voilà, une bronca de sifflets, de huées pour accueillir le président sur la pelouse. C'est un peu les jeux du cirque, hein. Le peuple a parlé. Et aujourd'hui, donc, Sergio Moro se met en retrait de la vie politique. Ce ne sont pour le moment que 5 jours, rappelle El País. Mais si cela ne suffit pas à faire remonter la popularité de Jair Bolsonaro, le ministre pourrait sauter une fois pour toutes. Or, le malaise est profond dans l'opinion publique brésilienne. Il ne faut pas oublier que c'est justement la multiplication des scandales de corruption impliquant la gauche, le parti des travailleurs. C'est cette multiplication des scandales qui a achevé de dégoûter les Brésiliens l'an dernier de leur classe politique et les a amenés à voter pour l'extrémiste de droite Jair Bolsonaro, le propulsant donc au pouvoir.